Bonjour à chacune, à chacun. Ce matin, nous avons ouvert la parole de Dieu dans le livre des Actes, un livre qui nous retrace ce qui s'est passé après la résurrection de Jésus-Christ et qu'il soit retourné au ciel. Le Saint-Esprit a été donné aux croyants dans un temps où au peuple juif est encore proposé le royaume messianique. S'ils se repentent nationalement, alors le Messie, le roi, le Christ reviendra. Et le Saint-Esprit, à cette époque, agit avec la puissance des miracles, des signes, des prodiges. Et nous voyons toute cette première église de Jérusalem mettre en œuvre cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Et dans les chapitres qui ont précédé, nous avons vu, en particulier la semaine dernière, ce rappel pour ces personnes transformées par Jésus-Christ, de prendre à cœur le faible, l'opprimé, le pauvre. Et nous avons vu comment, finalement, au contraire de cet égoïsme qui fait que chacun dit bah, « ça c'est à moi, ça c'est à moi, c'est à moi », le Saint-Esprit les a poussés à avoir toutes choses en commun, de telle sorte que nul ne disait « bon, ça c'est à moi qui touche pas ». Non, mais on le mettait à disposition des autres. Le partage, la solidarité. Et dans cette église, il n'y avait donc plus de pauvres ou d'indigents, ou qui restaient indigents, qui restaient affamés, parce que ceux qui avaient de quoi, ben, donnaient à ceux qui n'avaient pas de quoi. Et le chapitre d'aujourd'hui nous montre assez concrètement ce qui avait été mis en place dans l'Église pour justement cette solidarité de ceux qui avaient envers ceux qui n'avaient pas. Et nous voyons dans cette Église juive des chrétiens d'origine bien sûr juive mais helléniste, tous les juifs de la diaspora qui vivaient dans le monde grec, Alexandrie, etc., et qui avaient l'habitude d'étudier la parole de Dieu dans la version des Septante en grec. On disait donc que c'était les hellénistes. Et il y avait une rivalité avec des juifs également, mais les hébreux de Jérusalem d'Israël qui, eux, avaient la Bible dans sa langue d'origine en hébreu. Et voilà que dans ces deux communautés, j'ai envie de dire réunies en une seule, mais avec des origines culturelles différentes, il y a un petit malaise qui commence à se manifester. On a l'impression que justement dans l'action sociale, dans la solidarité envers les veuves, ici il s'agit des veuves, donc les personnes privées de ressources parce qu'elles ont perdu leur mari, leur soutien de famille, et qu'elles sont âgées, et l'Église va donc subvenir à leurs besoins. Et chaque jour, il y a une distribution qui est organisé. Tout à l'heure, Jean-Denis a parlé de la soupe populaire, ou des Restos du cœur, ou du Secours populaire, ou toutes ces actions entreprises pour faire que ceux qui n'ont pas assez pour leur quotidien, eh bien, puissent gratuitement. Aller et recevoir de quoi subvenir à leurs besoins. Cette distribution se faisait chaque jour pour les veuves dans l'église. Mais on avait l'impression que celles d'origine juive grecque étaient un peu négligées, nous dit le verset, par rapport à celles du territoire même d'Israël, bien ancrées dans le paysage hébreu. Comme s'il y avait une préférence entre deux communautés. Et c'est possible, le texte nous dit, ça commence à râler, ça commence à murmurer, on se dit, c'est mal organisé. Alors, face à ce dysfonctionnement, et face finalement à ce sentiment d'inégalité, ce sentiment d'être lésé, les apôtres interviennent, les douze, et ils vont mettre en place une organisation un petit peu plus efficace pour que cette distribution se fasse dans les meilleures conditions possibles et de façon à ce que on n'ait pas l'impression que ce soit un petit peu au petit bonheur la chance et puis on favorise un peu l'un et pas l'autre, etc. Mieux organisé. Et nous allons voir donc ici plusieurs choses, plusieurs leçons pour nous-mêmes, pour l'Église, dans ce petit événement où, à l'intérieur du fonctionnement de l'Église, on va améliorer son fonctionnement et va se lever une équipe. Le problème, c'est quoi? C'est que jusqu'à présent, dans les chapitres qui précèdent, à chaque fois que quelqu'un veut faire un don à l'Église, il vend une maison, il vend une propriété, et puis il apporte l'argent pour l'Église en disant « Voilà, moi je veux que ça serve pour les pauvres. » À chaque fois, on a porté l'argent aux pieds des apôtres. Les apôtres, ici, jouent le rôle vraiment central. On leur apporte l'argent, c'est à eux de le gérer, c'est à eux de le distribuer, et l'Église augmente de plus en plus parce que beaucoup d'âmes se convertissent à Jésus, et quelque part, on s'attend à ce que les douze apôtres, ben voilà, c'est eux qui font tout, quoi. Parce que c'est quand même les responsables. Et on s'attend à ce qu'ils soient sur tous les fronts en même temps. On s'attend à ce que il gère et il coordonne l'action sociale de l'Église ici, cette distribution. Mais ils ne peuvent pas être sur tous les fronts. Et manifestement, ils ont fait le choix de ne pas prendre en main cette coordination. Ce qui fait qu'il y a un peu de flottement. Ça fonctionne mal. Et ça commence un petit peu à râler. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit aux apôtres vous devriez quand même prendre en main, c'est vous les chefs là, qu'est-ce qui se passe? Alors oui, ils disent on va prendre en main. Hein. On va déléguer. Et ils disent au verset 2, les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Et au verset 4, après avoir dit qu'ils vont charger d'autres personnes de cet emploi, il dit « Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Quel était le travail, la mission principale des responsables de l'Église, nous le voyons juste avant, le dernier verset du chapitre 5, verset 42, « Chaque jour dans le temple et dans les maisons, les apôtres ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Leur mission première, c'est de parler de Jésus. Parler de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et puis, enseigner à ceux qui viennent de rencontrer Jésus pour les faire grandir. La Bible nous dit que quand on rencontre Jésus, c'est la nouvelle naissance. On est un nouveau-né. Et un nouveau-né, il a besoin d'être allaité, d'être nourri, de grandir, de se fortifier pour arriver, eh bien, à une maturité, à une solidité, à l'âge adulte. C'est ce que nous faisons dans l'éducation avec les enfants. Nous les accompagnons dans leur croissance. Et puis un jour, ils volent de leurs propres ailes parce qu'ils sont devenus mûrs. Mais pendant tout ce temps, il y a besoin de cet étayage, de cet entourage. Et les apôtres le font. Ils entourent de la parole de Dieu parce que Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Nourrir le ventre, oui, mais nourrir l'âme, cette fois oui. L'Église fait les deux. Elle nourrit les ventres. Mais les apôtres disent « Écoutez, nourrir les ventres, c'est important, c'est primordial, mais il y a quelque chose qui passe avant pour nous, c'est de nourrir les cœurs, les âmes. L'être humain, c'est vrai qu'il peut avoir le ventre vide, mais il a surtout l'âme vide de Dieu. Nous avons rencontré Jésus, il nous a sauvés, il est venu habiter en nous, et nous voulons partager cette bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Annoncer cette nouvelle que nous pouvons être réconciliés avec Dieu, que nous pouvons retrouver le contact avec notre Créateur, une relation d'intimité, où celui qui nous a créés va pouvoir nous accompagner main dans la main dans notre vie de tous les jours. Et nous n'allons pas être, comme dit l'expression, un peu comme des poules sans tête. Hein, les poules à qui on coupe la tête, elles courent dans tous les sens, elles courent n'importe où, puis elles meurent. Courir comme une poule sans tête. C'est ce que fait l'humanité, c'est ce que fait le monde depuis qu'il s'est coupé de son Créateur, de sa source, de son origine, Dieu. Et nous vivons notre vie en cherchant un sens à notre existence, en pataugeant. Et le Seigneur est venu à notre rencontre pour que nous arrêtions de patauger, pour que nous retrouvions le sens de notre existence, un sens qui vient naturellement lorsqu'il est relié à celui qui nous a créés. Quand je me reconnecte à celui de qui je viens, alors je retrouve le sens de mon existence. Et les apôtres veulent porter cette bonne nouvelle et veulent que cette humanité et les gens qui entourent et qui sont comme des poules sans tête, comme eux autrefois, deviennent des personnes qui, reconnectées à Dieu en Jésus-Christ, peuvent avancer dans la vie en retrouvant un vrai sens, en retrouvant la liberté, cette liberté contraire à cet esclavage du péché, de nos pulsions, de nos tensions, de notre caractère, où Jésus nous donne la victoire. Cette guérison de notre âme, alors remplir les ventres, oui, mais remplir le cœur, ça passe avant tout. Et les apôtres disent, il n'est pas convenable. C'est vrai que ça ne fonctionne pas très bien, il y a des dysfonctionnements, vous l'avez remarqué aussi? Et vous vous attendiez à ce qu'on prenne les choses en main? Non? Nous, d'abord, on veut nourrir les âmes, remplir les cœurs. Mais il faut aussi que les ventres soient remplis. Alors là, il y a une première leçon. Ne pas se disperser et se laisser distraire. On ne peut pas être partout à la fois. On ne peut pas tout faire. Et ça, c'est quelque chose de vrai dans la vie et c'est quelque chose de vrai dans l'Église. Là, le piège pour les apôtres aurait été de vouloir être sur tous les fronts. Les gens les voient comme les responsables, c'est les meilleurs, c'est les plus sages, voilà, donc tout sera mieux fait si c'est eux qui le font. Ils disent non, nous ne pouvons pas être sur tous les fronts. Et si nous commençons à gérer, à coordonner la distribution qui se fait chaque jour pour les veuves, on n'en a pas fini. Et on n'aura pas le temps d'aller chaque jour dans le temple et dans les maisons pour enseigner la parole de Dieu et annoncer la bonne nouvelle. On ne pourra plus le faire. Nous allons être obligés de délaisser la parole de Dieu. Cette parole de Dieu que nous amenons aux âmes. Non, nous ne voulons pas passer notre temps, nous, à nous occuper de nourrir des ventres et on va manquer de nourrir les âmes. Et c'est vrai qu'une distribution, ça demande de l'organisation. Ça demande de récupérer à droite, à gauche, les denrées, les aliments. On voit des fois les scouts qui sont là au supermarché avec le caddie, etc. Et qui demandent, est-ce que vous n'avez pas un truc de riz, un truc... Oui. Puis après, on les amène. Ah, il faut porter les plateaux, il faut les stocker, il faut les coordonner. Puis après, on met en place la distribution. Alors, on met sur les tables, et puis les gens viennent. Ben oui, ça occupe. Et l'Église a besoin de le faire, de s'occuper vraiment de cette dimension de solidarité humaine pour les plus démunis. Mais les apôtres vont dire, nous, ce n'est pas notre rôle. Parce que si on le fait, on va se disperser, on va se laisser distraire et on va passer notre temps, notre énergie à toute cette organisation matérielle nécessaire et bonne. Mais qui va nourrir les âmes? Qui va porter la parole de Dieu? Plus personne. Non, il y a une priorité, c'est d'apporter, d'annoncer la parole de Dieu, et nous n'allons pas nous laisser distraire et disperser de notre mission principale. On y reviendra tout à l'heure, mais comment est-ce que nous nous organisons, nous? Quel est le but de nos journées? Comment est-ce que nous fonctionnons? Est-ce que nous nous dispersons dans tous les sens? Et est-ce que du coup, en nous dispersant dans tous les sens, nous abandonnons, finalement, nous délaissons la chose principale de laquelle on devrait s'occuper? Ça, c'est vrai dans le quotidien, hein. C'est vrai dans le travail, c'est vrai dans la vie de famille, mais c'est vrai aussi spirituellement, on y reviendra. Alors, ne pas se disperser pour ne pas rater le but premier que le Seigneur nous a confié. Je donne simplement quelques exemples, mais quand on devient un père, une mère de famille, le Seigneur nous confie des enfants, confie un conjoint. Cette vie de famille, il faut l'entretenir, il faut la vivre pleinement, n'est-ce pas? Et lorsqu'on se disperse et qu'on va dans tous les sens, on n'arrive plus. On est un parent absent, on est un conjoint absent. Et toute la famille en souffre. Alors, il s'agit de se recentrer. Qu'est-ce qui fait que je me disperse, que je pars dans tous les sens, et que les choses vraiment primordiales et importantes, du coup, ben j'ai plus le temps, j'ai plus l'énergie, je ne peux pas être sur tous les fronts à la fois. J'ai pris cet exemple-là. On peut en prendre d'autres. Et c'est important pour nous de rassembler nos idées, nos pensées, de dire, attends, qu'est-ce qui compte vraiment ? Il y a une, deux, trois choses importantes dans lesquelles j'ai besoin de mettre mon énergie parce que c'est la bonne chose où travailler. Et des sollicitations à droite, à gauche, il y en a plein des sollicitations. Il y en a plein. On m'interpellera toujours pour faire ceci, pour aller là, pour m'investir là-dedans, pour. Oui, mais si je commence à me disperser, eh bien, je ne poursuis plus le ou les quelques objectifs majeurs que le Seigneur me donne, me fixe. Ah, je me disperse dans plein d'autres choses, mais pas dans les choses les principales et les plus fondamentales. Et après, tout part à volo. Hein. Après, ça dysfonctionne, c'est du n'importe quoi, ça. Parce qu'on ne peut pas être sur tous les fronts. On y reviendra. Alors du coup, dans l'Église, une équipe se lève. Les apôtres ne disent pas, écoutez, nous on va nourrir les âmes, mais tant pis pour les ventres. Ils disent non, dans l'Église, on est suffisamment nombreux pour faire les deux. Sauf que ce n'est pas nous qui allons le faire. C'est pas qu'ils veulent pas porter les plateaux de pêche en disant non, nous on est quand même les apôtres, tu vois, c'est quand même pas à nous de faire les choses matérielles. Non, c'est pas la question. Le travail physique, ils savent ce que c'est. Hein. Pierre qui parle là, c'est un pêcheur, il avait son bateau de pêche, il réparait les filets, il tirait. Je veux dire, c'est un homme qui a l'habitude de travailler de ses mains. Peut-être d'ailleurs ça lui manque, je sais pas. Mais il a compris que maintenant sa mission est ailleurs. Qu'est-ce que Jésus lui a dit ? Ah, tu es là dans ton bateau de pêche ? Suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Un pêcheur d'hommes. Tu ne vas plus pêcher les poissons, mais tu vas pêcher des hommes, des âmes humaines. Tu vas leur annoncer la parole de la vie pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Tu vas annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Fais de toi un pêcheur d'hommes. Et Pierre sait que sa mission, son objectif principal, c'est d'être un pêcheur d'hommes. Il n'est pas là pour se laisser accaparer par l'action sociale de l'Église. Néanmoins, elle a tout son sens. Et il dit, écoutez, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qu'il soit plein d'esprit de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et ils vont choisir sept hommes. D'ailleurs, tous juifs d'origine grecque, puisque c'était apparemment les veuves grecques qui étaient négligées. Alors, les sept qui sont employés sont, je dirais, originaires de cette communauté un petit peu, peut-être méprisée, un peu abandonnée. Eh bien, on va choisir ces sept-là pour justement rétablir peut-être un petit peu plus d'équité, que ça fonctionne bien. Une équipe qui se lève, des fonctions diverses bien organisées pour chasser le chaos. Oui, c'était dysfonctionnel, oui, c'était un petit peu au petit bonheur la chance, la distribution. Il fallait mettre un peu d'huile dans les rouages. Et les apôtres organisent en disant, mais voilà, on va mettre des personnes responsables. On va déléguer. Et dans l'Église, sept personnes vont donc se lever pour prendre cela en charge. Dans une Église, les pasteurs ne font pas tout seuls. Et c'est important de rappeler combien les responsables d'Église ont besoin de pouvoir se consacrer tout particulièrement à être dans le temple, dans les maisons, pour enseigner, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus, d'abord et en priorité pour s'appliquer à la prière, au ministère de la parole, ce ministère public d'enseigner, d'abord. Et dans une église, c'est vrai qu'il y a des tas de choses qui risquent de disperser. Ah, nous avons un bâtiment. Ceux qui ont un appartement, une maison, ils savent l'entretien que c'est. Oui, un bâtiment, c'est de l'entretien. Un bâtiment, c'est du souci. Un bâtiment, déjà, il faut faire le ménage. Combien de fois est-ce qu'on n'a pas passé la serpillière ? Oui ? Il faut faire des réparations. Je me souviens de mon dernier discal que j'ai fait en sortant les gravats de là-haut. Bâtiment, c'est organisé. Les vidéoprojecteurs, le système informatique, etc., etc. C'est plein de choses matérielles. Pendant ce temps, on n'annonce pas la parole de Dieu. Hein. Mais il faut que ce soit fait. Et oui. C'est préparer la Sainte Cène. C'est ouvrir la salle. C'est ouvrir les volets pour la vitrine. C'est gérer la trésorerie de l'Église. C'est aller déposer l'argent en banque, c'est faire des commandes de papier toilette, c'est de faire les courses, c'est de... Oui ou non ? C'est tout ça, le fonctionnement de l'Église, quantité de choses matérielles. Et puis, c'est s'inquiéter des démunis. Qui c'est qui a besoin d'aide en ce moment dans l'Église ? Qui c'est qui est un peu court financièrement ? Est-ce qu'on peut aller faire des courses avec, etc. ? Oui, toutes ces choses se font dans l'Église. C'est du temps. Quelqu'un en ce moment dans l'Église a vu un besoin dans le soutien scolaire. Oui. Il y a une aide à apporter là. Dans notre chapitre, c'était pour les veuves et la distribution, mais il y a d'autres besoins. Du soutien scolaire. Et c'est excellent. Et on peut partir dans des tas de dimensions. Je pense par exemple simplement à la musique, encore dans l'Église. Organiser les cahiers de chant, corriger des fautes, mettre à jour les chants. Combien de fois avec Jean-Denis, on prend les partitions et puis c'est pas les bons accords, c'est pas les bons trucs. Ouais, il faudrait y passer du temps pour le remanier, pour tout ça. Des tas de choses nécessaires et bonnes, je pense encore au site internet de l'Église. Bien sûr, un site internet, c'est du travail. J'enregistre le message, le mettre en ligne. Oui. Le mensuel, etc. Des tas de choses, et plus encore, qu'une église a besoin ou dans lesquelles elle peut s'investir, et c'est formidable. Mais le Seigneur nous dit, attention de ne pas te disperser. Alors, il y a besoin d'une équipe qui se lève. Dans l'église, il y a besoin des gens qui s'investissent et qui prennent en charge telle fonction, telle charge, tel rôle. Et c'est dans cette idée-là qu'il y a quelques mois, nous avons évoqué les pôles de l'Église, hein, afin de mieux structurer les différents pôles de l'Église, en cherchant pour chaque pôle des responsables. Responsables des repas en commun. Responsables de musique. Responsables de l'action sociale, solidarité. Responsables, voilà, pour coordonner. Parce que sinon on se disperse, à tout vouloir tout faire, on fait tout mal. Et puis surtout, on ne fait plus la chose la plus importante que ce chapitre nous rappelle. Première des choses, chaque jour, dans le temple, dans la maison, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et les 12 disent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir. Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, parlera du corps, 1 Corinthiens chapitre 12. Et il dira, l'Église, c'est un corps, et dans le corps, il y a différents membres. Il y a les doigts, il y a l'œil, il y a l'oreille, et chacun a une fonction différente. C'est une unité, et en même temps, une diversité. Et chacun a sa fonction. l'oreille va écouter, l'œil va voir, la main va saisir, etc. Chacun, bien coordonné, fait que le corps fonctionne bien. Image de l'Église où chacun reçoit de Dieu un rôle, une fonction, prend une fonction, un rôle, pour que la vie de l'Église soit harmonieuse, diversifiée, plutôt que un petit peu chaotique, un petit peu difficile, un petit peu tendu, comme c'était le cas à un moment dans l'Église de Jérusalem, et c'est normal. On dit, ça fonctionne mal, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça fonctionne mieux? Alors, c'est un appel que Dieu adresse vraiment à chacun dans ce chapitre en disant, mais il dit à l'Église de Jérusalem, cessez de penser que c'est aux responsables de tout faire. Vous les attendez sur tous les postes, ce ne sera pas le cas. On ne va pas se disperser. Par contre, levez-vous. Et c'est vrai que des fois, il y a des gens qui vous disent, ça serait bien que l'Église fasse ceci, ça serait bien qu'on fasse cela, ça serait bien. Vas-y. Ah ouais, mais... Ah oui, ça serait bien, mais c'est au pasteur de tout faire après. Vous voyez, non? Parce qu'on se disperse et que ce n'est pas possible. Alors, c'est à chacun de dire, ça serait bien qu'on fasse ça, mais qu'est-ce que moi je vais faire? Se lever pour être une équipe et pour porter. Et dans l'Église, il y a des tas de personnes aujourd'hui qui se sont levées et qui ont pris des domaines en charge. Et c'est formidable. Et une église doit vraiment viser, garder cette vision de dire au maximum, on se lève pour prendre en charge des choses, parce que si finalement je vois ceux qui sont à la tête et qui normalement devraient être disponibles pour faire ce que le Seigneur attend d'eux, d'abord enseigner la parole de Dieu, visiter les gens, mais qu'ils ne le font pas, ils ratent le coche. Ces 15 derniers jours, je me sentais un peu coupable. Parce que ça a été 15 jours de travaux à la maison. Du matin au soir, j'ai fait que des choses matérielles. Voilà. Et je me sentais un peu coupable parce que d'ailleurs, j'avais été visiter notre ami qui est là ce matin à l'hôpital. Et puis à chaque fois, on me demandait, est-ce que tu as des nouvelles de Dominique, tu l'as recontacté Et j'étais la tête dans mes travaux. Je dis non, j'ai pas le temps, j'ai pas pris de temps, il faudrait que je le fasse, mais je suis pas disponible pour ça en ce moment. Or ça va que ça dure 15 jours. Mais imaginez quand on est toujours accaparé par des occupations matérielles et des choses à gérer comme ça du quotidien, et malheureusement on n'est plus là pour faire la chose la plus principale, apporter la parole de Dieu à une âme qui en a besoin. Et donc c'est important que vraiment dans l'Église l'équipe soit là pour dire, qu'est-ce que je peux prendre en charge pour que vraiment la parole de Dieu puisse être annoncée? Et si je dois aider dans ce domaine, je vais le faire pour décharger, pour libérer. Néanmoins, quand on se lève dans l'Église pour servir dans l'Église, c'est pas comme dans une entreprise. Il y a des critères qui sont différents. Dans une entreprise, on va chercher la personne la plus capable, oui. Dans l'Église, on va choisir, au verset 3, des personnes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est une autre chose que ce chapitre nous enseigne, nous rappelle. Même pour des tâches matérielles, quand il s'agit là de porter des cajots de pommes et les distribuer aux veuves, les organiser cette distribution, eh bien, on ne choisit pas forcément lui parce qu'il a des gros bras. Des gros bras, mais une grande bouche aussi. Pas un très bon témoignage. Des gros bras, certes, mais alors, faut l'entendre parler. Non ? Dans l'église, on dit d'abord, si on veut servir dans l'église, si on veut prendre en charge des choses dans l'église, on va le confier à des gens de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Un bon témoignage. Parce que quand on sert dans l'église, on représente l'église. On le fait au nom de l'église. Et quand on a un mauvais témoignage de vie et que tout le monde connaît notre fichu caractère, notre sale témoignage et nos travers et n'importe quoi, on dit, il représente son église, eh bien dis donc. Et voilà pourquoi dans l'église, même pour faire le ménage, on ne va pas choisir des personnes qui ne correspondent pas aux critères qui sont enseignés ici. Et ce bon témoignage commence évidemment par le témoignage public du baptême. Ce baptême adulte où on dit dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ et je le manifeste et je le dis à chacun, je suis passé de la mort à la vie parce que je me suis repenti, je me suis réconcilié avec Dieu. Avant j'étais perdu, j'ai compris. J'ai saisi le pardon de Jésus et je veux en témoigner par le baptême. Le bon témoignage commence par là. Mais pas que. Qu'il soit plein d'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu vient habiter le croyant, celui qui passe de la mort à la vie, celui qui se tourne vers Jésus-Christ pour être sauvé, au moment où l'être humain coupé de Dieu dit « Je veux me reconnecter avec toi, toi mon Créateur, toi mon Seigneur, tu es venu sur cette terre, tu es mort pour moi, tu as donné ta vie pour moi, pour que mes péchés soient pardonnés. Je le veux, je te demande pardon. Et je veux désormais marcher avec toi. Un avant, un après, que symbolise le baptême. Mort à l'ancienne vie, et ressuscité pour une nouvelle vie, main dans la main, avec Jésus. Où je vais le suivre, où je vais lui obéir, où je vais chercher sa volonté, et non plus la mienne. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu vient habiter dans celui qui se réconcilie avec Dieu. Alors bien sûr, ça veut dire que dans l'Église, on ne confie pas de choses à des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, qui ne sont pas converties à Jésus-Christ, on va dire qu'ils ne sont pas sauvés, qu'ils sont encore coupés de Dieu, qui n'ont pas fait ce pas de la repentance et de la foi en Jésus-Christ. Non ? Il n'y a pas de place pour du service alors qu'on n'est pas réconcilié avec Dieu dans l'Église, même si ça nous arrangerait, parce qu'il s'y connaît tellement bien en informatique. Oui, mais non. Non. Des critères spirituels, d'abord. Et puis, en plus, ça ne s'arrête pas là. Plein du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement qu'il a le Saint-Esprit, qu'il est devenu chrétien, mais ça veut dire qu'il en est plein, ça veut dire qu'il l'entretient par une relation, une communion avec Dieu de tous les jours. Parce qu'on peut être passé par la repentance et la réconciliation avec Dieu, et puis on se laisse un peu aller. On se laisse un peu aller, on pense plus tellement au Seigneur, on prend plus soin de bien lui obéir, de chercher sa volonté, sa pensée. Nos travers reprennent un peu le dessus. À ce moment-là, on n'est pas plein du Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit, mais on n'en est pas rempli. Et il dit dans l'Église, quand on veut confier quelque chose, un service, on va le confier à quelqu'un qui a passé ce cap. Ce cap de l'homme charnel qui, oui, il est sauvé, oui, il a le Saint-Esprit, mais quand on l'observe au fil des mois, on voit plus une vie où le Saint-Esprit a son niveau minimum qu'une vie où le Saint-Esprit, on sent qu'il en est rempli le plus souvent. Et plein de sagesse. Et là, la sagesse, c'est cette capacité à assumer la tâche, hein, faire une distribution, bien l'organiser, etc. Ça demande du discernement, de la sagesse, de l'organisation. Nous sommes là plutôt dans la capacité, effectivement, à faire la tâche qu'on nous confie. Si vous comptez sur moi pour le bâtiment, être responsable du bâtiment, je n'ai pas la sagesse pour. Je risque de faire des choses stupides. Parce que ce n'est pas mon domaine. Je n'ai pas la sagesse pour dire, tiens, tel truc, je sais que ça fonctionne comme ça dans le bâtiment, si on met tel ciment, si on met tel truc. Non. Donc, oui, aussi, un ministère, un service qu'on va pouvoir faire avec sagesse. Mais ça vient en dernier. En premier, un bon témoignage. Deuxième, rempli du Saint-Esprit. Puis après, en adéquation avec le travail qu'on nous confie. Voilà pourquoi dans l'Église, on ne va pas confier les responsabilités des tâches trop vite. Parce que pour avoir un bon témoignage, le bon témoignage, il se voit sur du long terme quand même. C'est pas en une semaine qu'on connaît les gens. Pourquoi on ne va pas confier à des personnes inconverties ou non baptisées? Parce que le Seigneur nous donne une marche à suivre. Parce que tout ce qu'on fait, on le fait pour le Seigneur. Il n'y a pas des choses entre guillemets matérielles et d'autres spirituelles. En disant, bon, mais voilà, ça... C'est juste très basique, c'est fonctionnel, c'est matériel, il n'y a pas besoin d'être très spirituel pour ça. Oui, dans la vie de tous les jours, oui, mais dans l'Église, c'est pas pareil. Jouer de la musique, il suffit d'être un musicien. Johnny Hallyday peut vous faire de la guitare le dimanche matin, ou il pouvait. Sauf que je ne suis pas bien sûr qu'il ait un bon témoignage et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Alors il a beau bien jouer de la guitare, on ne lui donnera pas une place sur l'estrade. Parce qu'il ne correspond pas aux critères que Dieu nous donne pour servir dans l'Église. Vous voyez ? Alors on aura peut-être quelqu'un qui joue moins bien, mais quelqu'un qui est plein de l'Esprit. Et c'est comme ça qu'une Église avance. Alors, terminons avec justement retrouver cette vision première de l'Église locale, c'est enseigner la parole. Que se serait-il passé si les apôtres avaient pris en charge l'action sociale de l'Église? Ils auraient délaissé la parole. Et ils ne l'ont pas fait. Parce que la mission première, c'est d'enseigner et de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ils ont tenu le cap. Et ce qui est formidable, c'est que parce qu'ils tiennent, eux, le cap, ça tire toute l'Église dans leur sillage. Parce que les hommes qui se sont levés, les sept personnes qui se sont levées, par exemple, dans ces personnes, il y a Étienne. Dans ces personnes, il y a Philippe. Et c'est deux personnes qu'on va retrouver qui vont, elles aussi, annoncer la parole de Dieu et évangéliser autour d'elles. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le modèle des responsables de l'Église qui ne se sont pas laissés disperser et qui ont dit, non, il y a quelque chose de premier, c'est enseigner la parole de Dieu. Et du coup, ces personnes qui sont engagées dans l'action sociale vont en même temps, parce qu'elles peuvent, elles ont le temps de faire les deux quelque part, pas autant que les apôtres, mais elles ont leur mission d'action sociale, mais elles prennent conscience qu'il ne s'agit pas de nourrir simplement les ventres, mais aussi les âmes. Et c'est pour ça que dans ce même chapitre, nous voyons Étienne, plein de grâce, de puissance, et qui va commencer à parler, qui enseigne parmi le peuple, et il va avoir des problèmes. Et ça sera le premier martyr de l'Église. Mais nous voyons des gens qui suivent l'exemple des responsables d'Église. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, parfois, dans le monde chrétien, dans les Églises ? Malheureusement, nous voyons des Églises qui ont abandonné leur vision première. Des églises qui disent ce qui compte vraiment, c'est l'action sociale, c'est les démunis, c'est les pauvres, c'est ceci, et dont les responsables vont s'y investir cœur et âme, à tel point qu'en fait, la parole de Dieu n'est plus enseignée. Ils sont, les responsables, les têtes, ne sont pas là chaque jour dans les maisons en train d'annoncer la bonne nouvelle et la parole de Dieu. Ils sont là en train d'organiser tel forage de puits en Afrique, tel micro-crédit, et c'est très bien. Sauf que plus personne n'annonce la parole de Dieu. Ça, c'est une église qui a perdu sa vision. Elle s'est dispersée dans des buts seconds, pas dans des buts premiers. Je pense par exemple aux colonies de vacances. À la base, historiquement, après-guerre, colonies de vacances avaient pour but de permettre aux enfants de prendre le bon air de la campagne, des montagnes, des enfants des villes, etc., et de recevoir un petit peu des vacances, d'aller se fortifier et de recevoir pendant... en plus, ça durait longtemps, je crois, 3 semaines, 1 mois, hein, ces premières colonies, et de se ressourcer physiquement, mentalement, etc., de recevoir de la nourriture, voilà. Et c'est très bien. Les colonies de vacances, il y en a plein, et nous avons des colonies de vacances chrétiennes aussi, n'est-ce pas? D'ailleurs, si nos jeunes, si l'église est vide aujourd'hui, c'est parce que nos jeunes y sont, hein. Oui. Mais là aussi, on peut se perdre. Dans les colonies de vacances chrétiennes, notre but, c'est vrai, c'est de pouvoir offrir des vacances à des enfants peut-être qui n'en ont pas d'habitude. Ou... Oui, c'est vrai, c'est bien. Nourrir les ventres, l'action sociale, c'est bien. Mais enseigner la parole de Dieu, c'est premier. Et dans une colonie chrétienne, ben, l'objectif, c'est de faire les deux. Permettre à des enfants d'être en vacances et d'avoir des chouettes activités ludiques et de faire plein de jeux, de se faire des copains et de vivre un autre environnement que... la cité de Bariol et... Oui. Mais que l'âme reçoive la parole de Dieu. Et hélas, dans plein de colonies chrétiennes, la parole de Dieu devient de portions de plus en plus réduites. Pourquoi? Parce que l'État ne donne des subventions qu'aux colonies de vacances qui rendent leur enseignement religieux facultatif. La CAF n'aide les parents qui envoient les enfants que dans des colonies où l'enseignement n'est pas religieux ou facultatif. Alors malheureusement, il y a plein de colos chrétiennes qui, ne voulant pas perdre un certain public, parce que ça coûte cher les colos, on dit bon, bah ouais, mais si on perd les subventions, si on perd la CAF, si on perd ceci, ça va être compliqué pour ces enfants de continuer de venir. Surtout s'ils viennent de milieux défavorisés, de cités. Alors on va rendre l'enseignement biblique facultatif. Alors mon grand, tu viens avec nous lire un peu la Bible et prier, ou tu préfères rester à jouer au foot? T'es pas obligé, hein? Facultatif, t'inquiète, ça dure qu'une demi-heure. Et beaucoup de colos actuellement, oui, ont toute cette dimension très très sociale finalement, et c'est formidable de pouvoir partir en vacances, sauf que la majorité des enfants reviennent l'âme. vide parce qu'en fait l'enseignement est tellement dilué, tellement homéopathique qu'il n'en reste rien. Quand on voit là comment les apôtres y parlent avec force, avec puissance de la parole de Dieu, on est loin de l'homéopathie timide, de j'essaye un peu de caser un petit peu, un petit mot sur Dieu peut-être, tu sais. On a perdu la vision première. Ça c'est extrêmement important, c'est un exemple. Et dans l'Église, nous devons veiller à ce que la vision première soit maintenue. Et ça fait des petits. Alors nous terminons en disant, si je suis dans l'Église, si vous êtes aujourd'hui dans l'Église, c'est parce que vous avez pris conscience ou vous êtes en train de prendre conscience que votre vie d'être humain a besoin d'être connectée avec le Créateur. Oui ou non ? Si on est là aujourd'hui, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, Dieu, on se rend compte qu'on a besoin de se reconnecter à lui. Sinon, on ne serait pas là. Peut-être que je suis en train de commencer à en prendre conscience. Je me pose des questions. Peut-être que j'ai déjà bien avancé, je me suis réconcilié avec Dieu, il est le maître de ma vie. Et j'ai pris conscience que j'ai besoin de vivre et de respirer dans la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce qui me disperse et qui me fait délaisser la parole de vie ? Vous vous souvenez de l'évangile de Jean, et la parole a été faite chair. C'est Christ, Christ, la parole qui vient, qui s'incarne. Qu'est-ce qui me disperse et qui me fait délaisser Christ, qui me fait délaisser la parole de Dieu ? Et ça, nous avons besoin d'y réfléchir. Est-ce que dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, alors que je me suis peut-être réconcilié avec Dieu, ou alors est-ce que parce que je m'approche de Dieu, oui, mais il y a des tas de distractions qui veulent... Lisez avec moi, Marc 4, c'est la parabole du semeur. Évangile de Marc, au chapitre 4, c'est ce semeur qui sème la semence, il lance les graines, et les graines tombent dans toutes sortes de terrains. Mais il y a des terrains improductifs, et puis il y a la bonne terre où la graine va tomber et produire du fruit. Alors Marc 4, au verset 18, il s'agit des graines qui ont atterri parmi les épines. Et parmi les épines, malheureusement, elle ne va pas arriver à maturité. Les épines montent et étouffent la semence, elles ne donnent pas de fruits. Marc 4, verset 18-19, Jésus donne l'explication. Il dit... D'autres personnes reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, donc la parole de Dieu. Comme nous, ce matin, on entend la parole. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. J'entends la parole, je reçois la parole, mais il y a plein de choses qui vont venir, les épines, et qui vont me disperser, me distraire. Et cette parole de vie de laquelle je me suis approché, finalement, ben elle retombe, elle ne sert à rien, elle ne produit pas de fruits, parce que je me laisse distraire. Je me disperse. Et nous avons besoin de bien considérer, en tant qu'être humain, je suis comme une poule sans tête qui court dans mon existence en rond et n'importe comment et n'importe où. J'ai besoin de trouver le sens de mon existence, et quand je l'ai trouvé en Jésus, j'ai besoin de le poursuivre et de rester accroché à ce sens en Jésus, en Dieu, parce que je me suis reconnecté avec celui de qui vient ma vie. Oui, mais
qu'est-ce qui me disperse, me distrait de cela? Et nous avons besoin de réfléchir à notre vie, la place de Dieu dans notre vie, et puis tout ce qui lui vole la place, tout ce qui le pousse un petit peu du coude et allez, pousse-toi un petit peu, fais-moi un petit peu de place, alors un petit peu le travail, un petit peu les amis, un petit peu les plaisirs, un petit peu les distractions, un petit peu ceci, un petit peu cela, et puis Dieu n'a plus de tellement de place dans notre vie. Le minimum, Dieu. Les apôtres ont dit non, non, non.
Même les bonnes choses dans l'église, l'action sociale de l'église, très bonne chose, mais attention, on ne va pas non plus lui laisser voler la place première qui est la nôtre, que la parole de Dieu soit pleine et entière dans notre vie et qu'on l'annonce. Et donc c'est aussi pour nous la conscience de ce monde perdu où l'être humain justement il erre sans Dieu et sans espérance. Et regardez Philippiens 2. Quelle est notre identité lorsque nous avons rencontré Jésus-Christ, lorsque nous sommes passés de la mort à la vie, nous sommes devenus enfants de Dieu, mais pas que. Philippiens 2, au verset 15-16, nous dit déjà au verset 14, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Hein, les hésitations, oui, mais j'ai ça là. Ah ouais, mais j'ai tel rendez-vous, ouais, j'ai tel programme, j'ai tel planning, j'ai tel... Hein, tout ce qui nous distrait, tout ce qui nous disperse, qui nous fait râler peut-être même de nous lever le dimanche matin pour venir au culte. Verset 15, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Il faut se rappeler que le monde... L'être humain coupé de Dieu, duquel nous faisions partie autrefois, tant qu'on n'a pas reçu Jésus-Christ pour transformer notre vie, on est perdu. On est cette génération perverse et corrompue par le péché. Et bien dans cette génération perverse et corrompue, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Lorsqu'on est sauvé par Jésus-Christ, lorsqu'on a accueilli la bonne nouvelle du pardon en Jésus-Christ et qu'on vit, on est rentré dans cette vie, main dans la main avec Dieu, alors on devient un témoin. On devient un flambeau dans le monde enténébré, dans le monde aveugle, étranger et ennemi de Dieu, nous dit la Bible. Nous devenons un flambeau. Et on a un flambeau qui brille et qui éclaire autour de lui. Il dit, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Ce flambeau, c'est pas moi, hein. C'est pas mes idées, mais c'est la parole de Dieu, la parole de vie dont je vais témoigner. C'est ce que faisaient les apôtres. Ils étaient là chaque jour dans le temple et dans les maisons pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils étaient les flambeaux dans le monde, portant la parole. Mais il n'y a pas que les apôtres. Tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu, ils sont aussi cette identité de flambeau qui porte la parole de vie. C'est pour ça qu'il dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Est-ce que j'ai conscience que autour de moi, il y a plein de poules sans tête? Eh oui, mais des voisins, des proches, des amis, des collègues. Et moi, je suis un flambeau qui porte la parole de vie. Qu'est-ce qui fait que je me disperse? Et que du coup, je suis un flambeau pas très éclairant. Je me disperse tellement que cette mission et cette identité de flambeau qui porte la parole de vie, je la vis rarement. C'est rare que je parle de Jésus, c'est rare que je vienne éclairer un cœur de la parole de vie, de la parole de Dieu. Alors peut-être je nourris des ventres, mais la parole de Dieu,
c'est pas par moi qu'elle nourrit les âmes, parce que malheureusement je me disperse tellement que je fais autre chose. Nous avons besoin de revenir à l'essentiel et de réfléchir dans notre quotidien, parce que dans notre monde nous sommes pleins de sollicitations. Alors parfois c'est pour des très très bonnes choses, hein, comme l'action sociale, oui. Mais la plupart du temps c'est juste pour la série du soir et pour les trucs qui accaparent notre temps et qui en plus ne servent à personne d'autre qu'à nous-mêmes. Hein. Mais on se disperse dans plein de choses. Peut-être dans la culture. Dans... Vous ouvrez le journal La Provence tous les mercredis, vous avez tout le programme culturel qu'il y a sur Arles, c'est formidable. Si vous vouliez tout faire, vous auriez passé d'une vie. Hein. Non mais... Alors, ça c'est sans oublier tous les restos qu'il faut visiter, puis c'est sans oublier le sport, et puis c'est sans oublier... Oui, mais... Alors, porter la parole de vie, être le flambeau, ben, c'est quand j'ai le temps. Hein. Les apôtres nous montrent le chemin. Ils disent, non, 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 nous, on ne se laisse pas disperser. Jésus m'a dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Eh bien, je suis un pêcheur d'hommes, avant tout. Et même pour une bonne chose, de coordonner des distributions, la soupe populaire, etc., les apôtres, ils disent, non, on va... D'autres personnes vont se lever et elles vont apprendre et elles vont se former et elles vont elles-mêmes devenir des évangélistes. Mais nous, on ne va pas se laisser disperser. Alors que nous puissions réfléchir, qu'est-ce qui me disperse et qui fait que parole de Dieu, elle est infructueuse, je la laisse étouffer par des tas de choses. Et puis je ne suis plus ce flambeau qui porte la parole de vie. Alors que ce soit vraiment le cœur de notre identité, sommes des flambeaux dans le monde, dans ce monde, nous brillons parmi cette génération perverse et corrompue, et la vision de l'Église, une Église qui ne tombe pas dans le piège d'action de ceci, action de cela, etc., et où les responsables, finalement, développent des tas de choses, hein, mais ne prêchent plus la parole de Dieu. Prions. Seigneur, merci parce que nous étions perdus et tu es venu nous tendre la main. Tu tends la main ce matin à chacun. Tu tends cette main pour te réconcilier avec eux. Tu tends cette main pour transformer notre existence, pour que nous puissions avec confiance, avec paix, avoir un avant, un après. Tu es le Dieu des miracles qui transforme les vies, parce que tu es celui qui nous a créés, et notre âme sans toi est vide. Et nous cherchons, Seigneur, des solutions, nous cherchons des guérisons, nous cherchons des tas de choses. Mais c'est ta parole, c'est ce qui sort de ta bouche, c'est ce que toi tu as à nous dire qui va construire, qui va bâtir, qui va guérir, qui va transformer, qui va libérer. Cette parole, Seigneur, elle a besoin d'être proclamée, enseignée, partagée. Aide-nous à ne pas tomber dans le piège de nous disperser vers des tas d'actions autres. Mais que nous soyons vraiment ces flambeaux qui portent la parole de vie. Je te prie pour ceux qui entendent ta parole peut-être pour les premières fois, qui découvrent petit à petit ce message de l'Évangile. Seigneur, que cette semence, comme dans la parabole du semeur, ne soit pas une semence qui tombe dans les épines et qui est étouffée par les soucis de la vie, par l'attrait, la séduction, des plaisirs, de ceci et de cela qui nous accaparent et qui nous font oublier toutes les interrogations fondamentale que tu adresses à notre cœur, à notre âme d'être humain qui a besoin de se reconnecter avec toi. Tu connais les cœurs, œuvre dans chaque cœur, dans chaque vie ce matin, Seigneur. Aide-nous dans l'Église, Seigneur, à ne négliger aucune facette de l'Église. toute bonne chose envers les démunis, envers ceux qui sont dans le besoin, d'une manière ou d'une autre. Et en même temps, Seigneur, que toutes les choses matérielles de la vie de l'Église puissent être portées par une équipe. Seigneur, nous te demandons, dans tous les domaines de l'Église, Seigneur, de susciter des personnes qui se lèvent et qui se lèvent qualifiées comme tu le désires, bon témoignage et rempli de l'esprit et de sagesse, pour pouvoir être ce membre dans le corps à qui tu confies une fonction pour ta gloire et qui a la joie de pouvoir te servir dans l'Église là où tu le places. Seigneur, nous te remercions de nous parler au travers de la Bible, de nous faire réfléchir, et nous voulons prendre au sérieux ce que tu veux nous dire et ne pas laisser retomber à terre la parole que nous avons entendue. Au nom de Jésus.